Ceci est la fenêtre du sport-onographe. Elle a été diffusée avant les nouvelles, avant l'émission.
Piquette, sais-tu comment s'appelait la ville de Calgary dans le temps?
Ben oui, ça s'appelait Fort Brisebois, du nom d'Éphrem Brisebois, qui fonda un poste en 1875.
Ça veut dire qu'en 88, là, ça aurait pu être les Olympiques de Fort Brisebois?
Ouais. Ah ouais.
Le sport-onographe? Ah ouais. Après les nouvelles.
Émission du 12 février 2010. À Pitoum. Désolé, j'ai un tabarnak de rhume cette semaine.
Hey les gars, je me demande ce que Bob Gainey faisait le 13 février 88.
Paul, sais-tu ce que je me demande?
Ouais.
C'est pourquoi tu te poses des questions de même?
13 février 88, Bob Gainey jouait contre les Whalers au Forum, puis il a perdu 4-1.
Ah ben ça veut dire que Bob a manqué cérémonie d'ouverture des Jeux de Calgary, maudite affaire.
T'es pas sérieux? Pauvre Bob, si seulement on pouvait l'aider à revivre ce moment-là.
Hey les gars, c'est en plein ce qu'on va faire maintenant.
Mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition spéciale du Sport-onographe en direct des Jeux olympiques de Calgary 88.
Oui,
j'ai à mes côtés Paul Meilleur au coin.
Salut, mon homme.
Et Yvan Piquette. Oui. Messieurs, bonsoir.
Réal, là, certains pourraient se poser la question, hein, pourquoi parler des Jeux de 1988 alors que ceux de 2010 à Vancouver, ben, ils commencent à l'instant.
Ouais, pourquoi?
Paul, Yvan, plusieurs raisons. Oh. Vous savez, Radio-Canada n'a pas les droits de diffusion pour les Jeux de Vancouver.
Ben, oui,
très peu de journalistes sur place, impossibilité de décrire les événements en direct. Mm-hmm. Alors, pourquoi parler de Jeux dont on ne peut pas parler, alors que nous pouvons revivre les derniers Olympiques d'hiver à se tenir au Canada, Calgary!
Pas fou, mon gars, pas fou.
Ben oui, alors Paul, un commentaire sur les cérémonies d'ouverture des Jeux de Calgary jusqu'à maintenant.
Ben pas compliqué, c'est lettre, on se croirait au Festival du cochon graissé, mon gars.
Ben effectivement,
les gars, c'est Jeanne Sauvé, la gouvernante générale, qui est sur le point d'ouvrir officiellement les Jeux.
Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques de Calgary.
Mm-hmm. Respire, Jeanne.
Célébrant. Hein? Les 15e Jeux olympiques d'hiver.
Épalaï, hein?
Ça s'annonce des Jeux excitants.
C'était pénible, on a failli pas se rendre. Ben, coudons dans ce cas, messieurs. Si les Jeux sont ouverts, je déclare notre émission spéciale sur les Jeux de Calgary officiellement ouverts.
Le
sportographe est là. Le sportographe est là.
Les plus beaux bobsleighs sont à Laval. Oui, c'est Normand Leblanc chez Bobsleigh Sport à Laval. Chez Bobsleigh Sport, on a le bobsleigh que vous cherchez. Bleu, vert, jaune-orange, bob à deux, bob à quatre. Il y en a pour tous les goûts du bobeur. C'est pas mêlant. Moi-même, ça me donne le goût de changer mon vieux bobsleigh. Saviez-vous qu'un bobsleigh est entièrement fait de technologie haut de gamme faite pour clencher solide? Venez me rejoindre chez Bobsleigh Sport à Laval. Oui, c'est Normand Leblanc qui vous dit « Le bon bob fait le bon bobeur ».
Pendant qu'ils regardaient les cérémonies d'ouverture de Calgary à la télé, les Bélans planifiaient déjà leur voyage d'épinglette olympique à Séoul en septembre. Ici, Louis Lemieux, à Calgary.
Des reportages de fond, de l'excitation dans les salons. Les Jeux olympiques de Calgary ont eu l'air passionnants. Et pour nous en parler, un journaliste qui était sur les lieux en 88, Louis Lemieux.
On parle d'épinglettes tout de suite. Salut Réal, bonsoir messieurs.
Bonsoir. Alors, c'était intéressant à Calgary.
Oui, vous êtes pas mal fin de me permettre comme ça, avec la magie de la radio, de retourner, revisiter mon passé de jeune reporter et me souvenir avec nostalgie du bon vieux temps. J'avais quand même une belle voix.
Oui, ben oui, c'est vrai.
Mais messieurs, il faut que vous sachiez tout de suite, Cowtown, la ville des parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les intimes, en Alberta. Alors, Cowtown sortait à l'époque, et ça c'est important, souvenez-vous-en, là, on sortait à l'époque d'une prospérité phénoménale. Les pétrodollars, l'argent, on ne savait plus où la mettre. Et on sort de là pour arriver dans un bust, parce qu'à un moment donné, la crise du pétrole a pris fin, et l'argent des pétrodollars aussi. Ce qui fait que les Olympiques sont arrivés comme une bouffée d'air fraîche. Et un renouveau, une espèce d'entrée dans le monde des grands. Alors, les Albertains sont arrivés comme ça, avec un gros party à organiser. Et finalement...
Ils ont fait de l'argent parce que ça a été payant, les Jeux de Calgary.
Les Jeux eux-mêmes, non, mais l'organisation des Jeux, énormément d'argent. Ouais. Parce que les droits de la télévision... Il faut dire que, souvenez-vous, là, on sort de 84 avec Los Angeles. C'est trop longtemps pour vous. Dion me comprendrait.
Ouais.
Alors, on sort de 84 à Los Angeles. Les Jeux avaient été baptisés les Jeux Coca-Cola parce que ça avait transformé la grande fête olympique en téléthon commercial à l'époque. Donc, la facture des Jeux de 88, c'était grosso modo 1 milliard de dollars.
Okay.
Ça, c'est le coût de la sécurité à Vancouver en passant.
Ça.
Et effectivement, ça s'est très bien passé auprès des commanditaires, mais c'est surtout auprès de la télévision où ça a été hyper payant. En fait, ils ont gagné la loterie. 400 millions de dollars tout d'un coup, un chèque de ABC qui est arrivé et 45 millions qui est arrivé de CTV et des autres diffuseurs canadiens.
Parce que là, on est dans la même situation et on était dans la même situation. Radio-Canada n'a pas les droits de diffuser les Olympiques cette année et n'avait pas les droits en 88 non plus.
On n'a pas les droits cette année.
Ben non.
Effectivement, Réal. Et c'est sûr que CTV et TVA à l'époque avaient les droits. Radio-Canada ne les avait pas. Mm-hmm. Cette année, CTV a les droits en anglais. RDS et V. V comme victoire, mettons.
On le
comptera cette année. Alors, j'ai couvert les Jeux de 88 du trottoir ou à peu près, donc un sans-droit, on dirait un sans-papier aujourd'hui.
Ou sur le terrain.
Et ça change tout de ne pas avoir les droits, n'est-ce pas?
C'est probablement pire aujourd'hui, selon ce que j'en comprends. Puis franchement, je vous plains de devoir vous-même couvrir ça sans avoir les droits. Qui sont ni plus ni moins, et le mot le dit, hein, les droits, c'est vraiment la propriété médiatique de l'événement. Dans mon temps, en 88, on n'avait pas grand droit non plus quand on en avait quelques-uns, comme par exemple un petit papier qui disait qu'on avait le droit d'aller s'asseoir dans la salle de presse ou qu'on avait le droit de passer en avant du public pour aller voir au-dessus des épaules des caméras des diffuseurs. Bref, on couvrait l'événement parce que l'événement sportif, on oublie ça, il appartenait aux
autres. Donc, c'était directement du trottoir. Et c'est comment couvrir ça du trottoir, les Jeux olympiques?
Souvenez-vous que Calgary, c'est la ville du Stampede. Alors, c'était comme un Stampede dans la neige. Parce que vous savez qu'on dit du fameux Stampede de Calgary que c'est le greatest outdoors show on earth. Je traduis pour vous, là, parce que je sais que... le plus grand spectacle extérieur au monde.
Vous l'avez vécu là-delà.
Pour faire ça, ça prend beaucoup de bénévoles, autant de chapeaux de cowboys blancs de préférence et beaucoup de bière aussi. Alors, c'est ce qu'ils ont fait pour les Jeux. Un beau gros party que j'ai couvert avec plaisir. D'ailleurs, je m'en souviens encore avec bonheur. Et je vous signale que personne n'a trouvé à redire. Le CIO, les visiteurs, les athlètes, personne n'a trouvé à redire.
Et les journalistes, parce que j'ai appris que vous aviez reçu une médaille, vous, journaliste de la part d'organisation, une belle médaille olympique.
Oui, oui, ça vous choque.
C'est le chapeau l'éthique.
Je reconnais là... Non, mais c'est vrai, on a reçu une médaille. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils en donnent encore. On l'a reçu aux cérémonies de clôture. Ouais. Je ne sais pas si c'était une tradition ou si ça l'est devenu. Regardez, je vous la prince, là. C'est exactement...
C'est beau.
C'est plus que beau, c'est la même!
Oui, mais nous, on est des professionnels, donc on se tient loin de ça.
On touche pas trop à ça. C'est le mieux, je vous remercie beaucoup de votre présence.
Qui ont contre ma médaille? J'ai une médaille, moi. C'est quoi le problème?
C'est-tu moi ou Joël Bouchard a un œil plus haut que l'autre?
Hey, Benoît Brunet, viens-tu te dire que Markov a été utilisé avec beaucoup de minutes?
C'est le genre de choses que vous dites avec vos amis en regardant Canadien, mais vous avez pas d'amis? Venez clavarder avec nous les soirs de match! Des commentaires sur les commentaires, des blagues de dégagement refusé, des tranches de vie de Jean Dion. De tout pour rendre un match contre la Floride excitant. Le clavardage ou spornographe sur radiocanada.ca/hockey à seulement 7 clics de la page d'accueil ou sur spornographe.com.
Les grands moments de 88, partie 1. En plus de prendre la place dans les génériques, l'année MCM LXXXVIII. Et le théâtre de plein d'affaires excitantes. À télévision, Guy Mongrain a une moustache et Alf l'extraterrestre essaye de manger le chat. Côté monarchie, le prince Charles passe proche de mourir dans une avalanche, alors que la reine de TQS passe proche de mourir dans un bain tourbillon. C'est en 88 que Prozac est lancé sur le marché, mais personne pense d'avertir Mike Tyson. Au cinéma, Mickey Rourke fait preuve de beaucoup de jugement en refusant le rôle de Tom Cruise dans Rain Man. Quant à Mario Lemieux, il dit des mots qu'on comprend pas dans une pub de Snickers. Mais le fait le plus marquant de 88 est sans contredit Wayne Gretzky, qui déménage à Los Angeles pour accommoder sa femme Jeannette, qui joue dans Police Academy 5. Revenez-nous tout à l'heure pour d'autres grands moments de 88!
Hey, salut tout le monde, c'est Yann Perrault. Appelons les choses comment qu'ils s'appellent. Vous écoutez le Spornographe sur les ondes de la première chaîne de Radio-Canada.
Le Point, avec Anne-Marie Dussault
et Simon Durivage.
Bonsoir. Le club de hockey canadien est pareil au Parti libéral du Canada.
Et si Canadien était comme le Parti libéral en 88, est-ce qu'il est comme le Bloc Pot en 2010? C'est ce que Piquette va nous expliquer, Yvan.
En effet, messieurs, les Olympiques sont en branle et on aura droit à tout plein de sports capotés comme le tir au gun en ski et la luge gréco-romaine. Alors, je vais profiter de cette chronique pour vous parler de quelque chose d'une actualité mordante.
Ouais.
Canadien en 1988.
Wow. Ça, on aime ça.
Oui, tous ensemble, ce soir, nous allons tenter de comparer la couverture médiatique de Canadien en 88 avec celle d'aujourd'hui.
Parfait.
On commence.
Stéphane, c'est le genre de match, je pense, que vous aimez. C'est très ouvert, vous avez de l'espace pour patiner.
Mmh. Alors, qu'est-ce qui cloche dans cet extrait de Jean Pagé en 88?
Ouais, Jean Pagé est à Radio-Canada?
Ouais. Ah oui, en effet, Jean a pris une petite débarque depuis pour se ramasser à VTL. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que Jean Pagé version 88 vous voit Stéphane Richer.
Ben c'est spécial.
Pouvez-vous imaginer une seule seconde Luc Gélinas, RDS, dire à Benoît Pouliot, « Vous, Monsieur Pouliot, vous avez compté un beau but, hein? » Hey! C'est juste s'il l'appelle pas mon petit poulet!
Ouais, ouais.
Deuxième extrait.
Eh bien, nous recevons en studio un homme heureux, Bobby Smith. Heureux, mais fatigué, Bobby?
Oui, très fatigué, très content d'avoir gagné cette série.
Quelque chose d'anormal dans cet extrait?
Ouais. Ben, Bobby, il parle français, ça se peut pas. Hein?
Exact! Ah. Chez Canadiens, en 1988, il y avait 3 anglophones qui avaient appris le français parce qu'ils jouaient à Montréal. Ça fait plus d'anglophones bilingues que de Québécois chez Canadiens en ce moment.
Oui.
Puis les Européens, eux, comment on les voyait?
J'en ai eu un paquet de Russes. Puis toutes les Russes sont pareils. Tôt, la face de bois, tu peux jamais avoir aucune émotion de la part de ce gars-là.
Ouais, non, ça c'est Jean Perron cette année, mais lui, il vit encore en 1988.
Ah, c'est ça.
Écoutons plutôt Pierre Nadeau dans le cadre de l'émission Le Point.
Est-ce que vous trouvez que c'est une équipe qui est représentative du Québec maintenant? Est-ce que les partisans vous suivent autant, d'après vous, que les anciennes équipes du Canadien?
D'après moi, je pense que les fans du Canadien nous suivent autant. Puis je pense que les Québécois sont tombés en amour avec Massenastlin, comme ils l'ont été avec Guy Lafleur.
Alors, c'est quoi la différence avec 2010?
Pour moi, personne ne va tomber en amour avec Sergei Kostitsyn.
Ouais. Bingo! Cette année, des Européens, il y en a, mais ils ne sont pas aussi aimables que Massenastlin.
Oui, Massenastlin.
Mais vous aurez reconnu Mario Tremblay qui allait devenir analyste avec Jean Pagé en 1988. C'est le Benoît Brunet de l'époque, l'accent du lac en plus et le chiolage contre les arbitres en moins. D'ailleurs, en 1988, Benoît Brunet jouait ses 2 premiers matchs avec Canadien. Un moment historique. Puis Jacques Demers, lui, il est entraîneur des Red Wings.
Et ça prend quand même des bons joueurs de centre pour pouvoir contenir ces fameux joueurs de hockey, Gretzky, Messier. Et je pense qu'avec la présence d'Eisenman ce soir, ça nous donnait une source de motivation. Puis on avait besoin de ça parce qu'on a quand même joué un très bon match à Edmonton. Puis tu perds. À ce moment-là, tu te demandes est-ce qu'on va être capable de battre cette équipe. Et ce soir, on a réussi à battre cette équipe avec un travail collectif.
Piquette, c'est qui ça?
Ouais. C'est-tu René Lecavalier?
Mais non! C'est Jacques Demers!
Ben,
oui, messieurs, en 1988, Jacques Demers, il parlait quasiment bien.
Mais
que s'est-il passé depuis pour qu'il nous sorte des affaires comme ça?
J'ai une chose que Steve Eisenman avait comme joueur au temps de la renommée. Il avait toujours tout ce qu'il contrôlait. Lui, il contrôlait tout. Il était toujours en charge de ses émotions.
Il y avait une enquête à faire là-dessus.
Ouais,
mais on n'a pas le temps. Cinquième extrait.
Eh bien, la vente des Nordiques a été confirmée cet après-midi. L'équipe passe aux mains d'intérêts québécois, dirigés par Marcel Aubut. Une transaction qu'on évalue maintenant à une vingtaine de millions.
Ah, je le sais, c'est quoi le problème? 20 millions pour les Nordiques, c'est bien trop, ça?
Niaiseux. Ce qui est différent d'avec maintenant dans cet extrait, c'est que les Nordiques existaient,
simplement.
C'est en 1988 que Marcel Aubut en avait fait l'acquisition, et je vous invite à écouter sa première phrase en tant que propriétaire.
Les Nordiques sont à Québec pour toujours.
Hop là, comme on dit.
Ben oui.
Alors, si on résume, en 1988, les analystes étaient polis, les anglophones se forçaient pour parler français, les Nordiques existaient, il n'y avait pas trop de maudits russes, et Jean Pagé était au sommet de sa profession.
Ben oui.
Puis la cerise sur le Sunday, le Canadien était bon.
Aïe, aïe.
Coudon, les vieux chigneux comme Pierre Trudel qui nous disent que c'était bien mieux dans le temps, y aurais-tu raison?
Hey.
Hein?
En 1988, Petro-Canada vendait plus de 50 millions de verres à l'effigie des Olympiques de Calgary. 22 ans plus tard, l'équipe du Spornographe récidive et vous vend les sous-verres pour aller avec. Les sous-verres pour les verres des Olympiques de Calgary. Démontrez votre support aux tables canadiennes et aidez à prévenir les cernes de Quick aux fraises. Procurez-vous le sous-verre olympique de Calgary et tous les profits seront versés au chum de Myriam Bédard. Faites comme l'équipe du Spornographe et dites...
Vancouver, non. Sous-verre, oui!
pièce.
Hey, 1988. Ouais, hein. Ça, c'était le temps où on pensait que l'an 50, là, c'était comme la sexe. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon.
Ah, ouais. La fameuse deuxième saison avec Maroussia, puis la crise cardiaque de Gilles Guilbeault.
Puis aujourd'hui, ben, après cette saison, ben, on se dit que c'est plus comme l'herpès, finalement.
Hein. Ouais, monsieur, tu te vantes pas que t'écoutes ça, puis t'espères que les épisodes soient pas trop fréquents.
Oh,
hein?
Non.
Salut! Ah ben, grosse touffe de plumes! C'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Jojo. Je m'en viens rester avec toi. Je commence mon droit à Laval.
Quoi?
Tiens, et si ce soir, on allait au Grand Théâtre? Ça te tente?
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse au Grand Théâtre?
Jouer contre les Russes, c'est comme une visite chez le dentiste. T'essayes de pas y penser.
As-tu vu? J'ai fait poser des balançoires.
C'est merveilleux.
Je peux-tu vous dire que je suis content qu'on fasse pas une spéciale 89 la semaine prochaine? Bon. Oui.
Chronique sport et société avec Fred Savard, alias Maître Verge.
Un oiseau d'acier fait l'horizon de la plage gris.
C'était le plus récent et le dernier succès de Nathalie René-Simard.
Oui.
Tourne la page que l'on peut voir sur le YouTube. Et pour parler de cette époque où écouter des chansons comme ça n'était pas un signe que vous n'aviez pas de goût, Fred Savard, alias Maître Verge. Bonsoir.
Messieurs, bonsoir.
Bonsoir, Fred.
Écoutez, je vous propose ce soir une réflexion sur le temps qui passe. On va tenter de voir si oui ou non, en 22 ans, nous avons évolué socialement d'une Olympiade à l'autre.
Ben,
et quoi de mieux que l'Almanach du Peuple, édition 88, pour se replonger dans ce qui animait les indigènes d'ici à cette époque. Je suis sûr que ça fait longtemps que vous n'avez pas miné dans l'Almanach. On a beau être des intellectuels du plateau, on est capable de se pencher sur les petites gens.
Pas souvent, mais des fois.
Les grands enjeux de l'époque, il y a 22 ans, étaient complexes et variés. Les gens se posaient les questions suivantes. Est-ce que Canadien va gagner la coupe? Est-ce que les Expos vont gagner la coupe? Est-ce que les Nordiques vont être encore poche?
Oui.
Est-ce que les Concordes vont revenir? On peut le voir, c'était une période complexe avec de gros débats de société.
Oui.
Les matchs de Canadiens étaient diffusés à la soirée du hockey à la télé et sur CBF 690 à la radio.
Ça
fait longtemps.
Oui, ça fait très très longtemps.
C'est cassé, à l'époque d'ailleurs, une radio dite professionnelle avec de vrais journalistes et aucun ancien joueur des Alouettes sur l'émission du matin. Pierre Trudel était à la barre des amateurs de sport et Michel Villeneuve croupissait dans l'anonymat journalistique de la ville de Québec. Une époque bénie.
Oui, monsieur.
Les conservateurs de Brian Mulroney étaient au pouvoir à Ottawa et les libéraux de feu Robert Bourassa à Québec. Ça, il n'y a pas trop de changements.
Oui,
on est dans les mêmes, malheureusement, les mêmes configurations. En 88, le Québec était culturellement dans un creux de vague post-référendaire difficilement imaginable aujourd'hui. Écoutez, on l'a entendu tantôt, la chanson de l'année, c'était Tourne la page de René Nathalie.
C'est bon, ça.
C'était écœurant. La découverte de l'année... Linen Chess, on s'en rappelle, était Metsu. Alors, on peut conclure que les années 80 n'avaient pas besoin de Star Academy pour produire de la médiocrité. C'est Pierre Flynn qui avait gagné le Félix du meilleur album rock. Ça donne une idée de la désolation des décibels. Écoutez, on n'a rien contre Pierre Flynn quand même. Mettons que c'est pas l'archétype du rocker sex drug Harley Davidson. Au moins, les jeunes d'aujourd'hui ont Éric Lapointe, Cain, mais surtout le Crystal Meth pour se défouler. Les Olympiques se déroulent en Calgary, paradis du redneck, je m'en voudrais de passer sous silence quelques personnalités qui se sont démarquées cette année-là lors de la remise des prix de l'Académie Country du Québec. Et là, je pense, messieurs, vous allez vous en rappeler, 88 a été l'année Paul Daresch, consacré meilleur Monsieur Country, chanteur par excellence. Il a remporté également le Willy du meilleur orchestre accompagnateur, ainsi que le Willy du meilleur producteur ex-aequo avec Joey Tardif. Mais pas de chicane, c'est une confrérie qui s'adore. Chantal Dufour avait remporté le Willy de la meilleure chanson tyrolienne avec « Chantons pour tous les enfants du monde ». Est-ce que quelqu'un chante pour les enfants aujourd'hui? Connaissez-vous?
Non, c'est fini.
On est perdant sur ce côté-là. La catégorie meilleur animateur radio en province avait été remportée par Gentleman Jill, possiblement le père de MC Gill. J'attends une confirmation à ce sujet d'une minute à l'autre via Twitter, Diaz Gill.
Bon, on attend ça.
Sur le plan être humain, l'année 88 a vu Guillaume, le métis vierge, devenir porte-parole de l'UNICEF pour le Québec. Hein, vous vous en rappelez?
Moi, je m'en rappelais.
Rallié à la cause des jeunes depuis toujours, le métis vierge essaie maintenant de convaincre les jeunes nés en 88 de faire du parachute, du parapente, de la boxe et du bateau de course au volant d'une Hyundai. C'est ce qui s'appelle avoir de la suite dans la Corée. On se rappelle que c'est en 88 que l'accord de libre-échange a été entériné. A posteriori, on sait aussi maintenant qu'il y a juste la Beauce qui en a profité. Le salaire minimum était alors à 4,75 $. C'est incroyable, ouais, ça, c'est quand
beau,
même.
Un beau salaire.
88 aussi, les Soviétiques ont commencé à se retirer de l'Afghanistan. On remarque que ça va beaucoup mieux pour eux depuis. Le salaire annuel qui se situe à 4,75 par habitant. Alors, on sent quand même que ces deux époques qui sont liées, mais l'évolution n'est pas évidente. Et bien, je termine avec la phrase de l'année en 88, selon l'Almanach du Peuple. Mm-hmm. Elle nous provient d'un député libéral quelconque, on ne le nomme pas, mm-hmm. qui aurait déclaré à une station de radio quelconque, on ne le nomme pas non plus, mm-hmm. « Il est comme un sac de thé. Il prend toute sa force dans l'eau bouillante. » Alors, on parlait bien sûr du chef du PLC de l'époque, le très quelconque John Turner.
Oui.
Les choses ne changent pas tant que ça non plus pour le PLC, parce qu'on parle encore d'un chef très quelconque en Michel Ignatieff, bien que nous ignorions dans quel liquide il trempe sa poche. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des conclusions à tirer de ça? Je ne pense pas. On va attendre 22 ans.
Oui. Merci. Au revoir.
Merci.
La fièvre des Olympiques envahit Laval. Oui, ici Normand Leblanc chez Skeleton Sport à Laval. Vous avez toujours rêvé d'être un parfait maniaque qui descend des pentes sur le ventre à 130 km/h aux 4 ans? C'est le temps de vous griller d'un Skeleton et Skeleton Sport est là pour vous. Fini les crazy carpettes qui finissent toujours à côté de vous. Passez au niveau supérieur. Passez au Skeleton. Skeleton, Skeleton. Vous êtes petit, vous êtes gros. Skeleton Sport a le Skeleton pour vous. Skeleton Sport, c'est le concept d'un seul magasin pour répondre à tous vos besoins en Skeleton. Oui, ici Normand Leblanc qui vous dit...
C'est le temps d'Olympic Quiz!
Ben oui, dans le cadre de cette émission spéciale Calgary 88, nous recevons un coach, un sénateur, un analyste, un représentant Ford, un ami, Jacques Demers. Ah. Jacques, bonsoir et dites-nous, est-ce que ça va bien?
Ah, ça va très bien!
Vous avez l'air en forme pas à peu près, là, Jacques. Ce soir, c'est simple, on s'amuse avec quelques questions quiz sur les Jeux olympiques de Calgary. Et pas de stress, là, vous avez même le droit à un petit appel si vous êtes dans le trouble. Jacques, vous étiez entraîneur du Détroit à l'époque...
C'est exactement ça.
Oui, c'est ça. Bon, il est en forme, notre Jacques. Vous étiez donc au fait des activités dans le monde du sport. Alors, une première question facile. Les Jeux olympiques de Calgary se déroulaient dans quelle ville canadienne?
Oh.
Oui, c'est compliqué. Là, prenez votre temps. Alors, c'était à...
À Calgary.
Bingo! Ouais! Bingo! Très bon départ, Jacques. Deuxième question. Quelle est la plus grande qualité nécessaire pour faire du skeleton?
Ouais, courage, hein? Courageux.
C'est ça, mais c'était courage, mais pas d'accent sur le A. Ouais, mais bravo quand même, Jacques.
Je suis content que tu me corriges.
C'est un plaisir.
C'est peut-être le mauvais mot que j'ai utilisé.
T'as le bon mot, Jacques, mais un accent de trop, c'est tout. C'est... Dernière question, Jacques. Nommez-moi le sport sur glace qui était en démonstration lors des Jeux de Calgary.
Je le souhaite. OK. Ouais.
Prenez un grand respire, mon Jacques. Là. Est-ce que vous voulez utiliser votre appel pour joindre Marcel Aubut, un fin connaisseur qui saura certainement vous aider?
Maître Aubut a d'autres dossiers à fouetter. C'est lui qui est président des Olympiques.
Président des Olympiques? Bien, comme vous voulez. Ben, c'était le curling. C'est tout pour cette édition spéciale olympique. Jacques, bravo. On se reparle bientôt. Et une petite chanson en s'en allant là.
When I wish I was smiling.
Merci, bonne soirée.
Les médailles, c'est pour les chiens. C'est pour ça que chez Trophée Johnny, on vend juste des trophées. Ça tombe bien, Johnny il est super bon pour sculpter des petits bonhommes dans du plastique golden. Dis à Johnny, c'est quoi ton sport? Puis Johnny va te gosser un petit bonhomme qui fait une pose athlétique en pointant le ciel avec la bouche ouverte. 2-3 couronnes de laurier golden, des petites colonnes en bois cheap avec un groove dedans, rajoute des poignées après ça, mon gars, puis on est en business. Johnny Trophée, le seul qui écrit trophée avec pas de E à la fin.
Vous écoutez Le Spornographe. Retrouvons Piquette, Munger et Meilleur au coin.
En 88, Canadiens et son solide alignement composé de Scott Sandelin, Barry Ganchar, José Charbonneau, Serge Boisvert et Stéphane Richon ont complété la saison avec 103 points. Mm. Malgré cela, Jean Perron perd sa job pendant qu'il danse en Guadeloupe en pleine saison morte. Fût-ce la faute des Russes, mon Paul?
Eh non, Réal Serge Chavard n'est pas russe. D'ailleurs, le sénateur ne s'en cache pas. Hein. Il voulait sacrer Perron dehors après sa première année avec Canadiens. Mais bon, Jean a remporté la coupe. Hein, quand on dit un mauvais timing. Puis, hey, tu parles d'une affaire. Toi, ça tombe-tu bien qu'on fasse une émission spéciale sur Calgary 88, parce que Jean, quand il a démissionné cette année-là, ben c'est au micro de Vous êtes assis, mon talk show de l'époque, là, qui s'est confié.
OK, puis?
Ben, on écoute, là. Ah.
Vous êtes assis, une idée originale de Paul Meilleur-Aucoin.
Bonsoir à tous, ici Paul Meilleur-Aucoin et bienvenue à Vous êtes assis. Il y a quelques heures seulement, Jean Perron était toujours l'entraîneur de Canadiens. Ce soir, ben c'est mon invité. Jean Perron, j'imagine que les prochaines semaines vont se dérouler sous le chômage, hein, je crée
bien. Bien, j'imagine que
Oui, oui. Hein. Jean, dites-moi, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu plus le coach de Canadiens?
Bien, il y a sûrement beaucoup d'erreurs que j'ai faites en cours de route.
D'ailleurs, vous en faites une en ce moment, faut dire j'ai faite. Bon, c'est pas grave, là, quand même, continuez, Jean. Là.
Il semblait qu'il y avait de la contestation au sein de l'équipe par certains joueurs. on a voulu en régler une partie à un moment donné. Chris Nyland est parti. Mm. Mais il semble que ça, c'était juste un coup côté du malaise.
Oui, un côté de la médaille, vous voulez dire, sans doute? Ou...
Oui.
Ouais, hein? Jean, les rumeurs ont fait état d'un différend important entre vous et Jacques Lemaire. Qu'en est-il exactement?
Moi, Jacques Lemaire m'a dit à certains moments donné certaines choses que je devais faire attention.
Genre, à votre français, c'est...
Oui.
Oh, quand même, hein? Et avec Serge Chavard, comment ça se passait?
Bien, j'ai toujours pensé qu'on était sur la même longueur d'onde.
De honte?
Oui.
C'est quoi? C'est Savard avait un petit peu honte de vous, puis Lemaire vraiment beaucoup?
Bien, écoute, je pense que moi, Jacques Lemaire m'a dit à certains moments donné, ça, j'aime pas ça, Jean.
Ouais, mais qu'est-ce qu'il connaît dans le hockey, lui, Lemaire? Je veux dire, il joue à trappe depuis 20 ans, là.
C'est... Ben, ça, c'est une question de philosophie d'organisation.
Ah, OK, M. Perron, je vous le donne. Maintenant, pour faciliter le travail d'entraîneur à Montréal, qu'est-ce que ça prendrait? Donnez-moi un exemple.
Faudrait que peut-être que... On a un coaching staff qui dépasse le 2 puis le 3.
Genre un coaching staff 4, c'est...
Oui.
Ah, c'est pas fou, dans le fond, c'est pas fou. En terminant, M. Perron, votre successeur à la barre de Canadien, comment le voyez-vous?
Le prochain entraîneur, probablement, sera beaucoup plus policier que moi.
D'ailleurs, je vous interromps, Jean, à l'instant, si vous me le permettez. C'est qu'on vient de m'apporter la nouvelle par fax, semble-t-il, que le prochain entraîneur de Canadien sera Pat Burns. Alors, M. Perron, vous nous parliez d'un policier, là, celui-là, sont allés chercher direct au poste. Savez-vous s'il parle bien, ce gars-là?
Je le sais pas.
Non? Bon, ben écoute, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, Jean Perron. Quant à vous à la maison, je vous invite à demeurer à l'écoute, car tout de suite après la pause, je recevrai Claude Villegrain, un Noir qui a fait partie cette année de l'équipe olympique canadienne de hockey. Sur ce, Jean Perron, merci beaucoup et au revoir.
Au revoir. Ah, quel homme, ce Jean Perron.
Oui, Réal, et je parlais de Claude Villegrain, là, en fin d'entrevue. Eh bien, il faut savoir que c'est un joueur qui a beaucoup marqué Jean Perron. Je vous laisse d'ailleurs sur un extrait de Jean tiré d'une récente émission de l'Attaque à 5 à VTL.
Merci, Paul.
En Europe, ceux qui sont noirs, qui jouent au hockey, sont excessivement populaires. Claude Villegrain est allé jouer en Suisse, ça fait un malheur.
Puis, Ian Austin, je me souviens de Claude.
Ian Austin, il n'est pas tout à fait aussi noir, lui.
Capsule linguistique avec Claude Canville.
Dans le monde de la science sportive, l'analyste a intérêt à s'accorder une marge de manœuvre, ce qui lui permettra éventuellement de changer d'avis. En effet, il ne dira pas « Georges Larac n'a jamais compris son rôle avec le Canadien ». Il dira plutôt « Georges, il n'a jamais compris son rôle ». Il l'a compris à un certain moment, mais il n'a jamais compris son rôle avec le Canadien. Le commentateur averti s'assure ainsi de prendre position de chaque côté d'un débat afin de ne pas perdre la face devant l'Éternel.
Ça, c'est Georges, mais comme joueur d'hockey, il n'a jamais compris son rôle, il l'a compris à un certain moment, mais il n'a jamais compris son rôle avec le Canadien.
Bonjour, ici Joseph Facal. Vous écoutez le Sportnographe à Radio-Canada.
Il va se passer quelque chose.
L'information qui vous intéresse.
J'attends quelque chose de gros.
Trudel 360.
Je sais pas quoi, honnêtement...
On se demande parfois à quoi servent les vieux. Eh bien, ils sont là pour témoigner d'une époque révolue, celle de l'année sportive 1988. Pierre Trudel, bonsoir.
Ça vient encore les couches.
Parlez-nous de cette fameuse époque où c'était cool d'avoir une moustache. Vous en aviez
une,
vous?
Oui, j'en avais une.
Vous avez une face à moustache.
C'est parce qu'à un moment donné, j'avais pas pu me résigner à tout raser. J'avais la barbe et la moustache. Là, j'ai...
C'était un drôle de décision quand même. Hein? Allez-y.
Non, j'avais promis ça si on ramassait des fonds pour le...
Des fonds pour la moustache.
Pour le cœur.
Allez-y. Ah, ben c'est une bonne cause.
Bon, écoute-moi, il n'y a pas juste les Jeux olympiques en 88.
Non, c'est vrai.
Les gens de discipline sportive. Alors, je vous fais une petite rétrospective. Allez-y. Quand même. Fin décembre, contre New Jersey.
Oui.
Mario Lemieux marque 5 buts.
Ah, c'était le bon temps.
Le fait cocasse, c'est que c'est dans 5 situations différentes. À forces égales, en avantage numérique, en désavantage numérique, sur un tir de pénalité dans un filet désert. Meilleur pointeur de la saison, évidemment, Lemieux est aussi désigné comme joueur le plus utile à son équipe, mais c'est Edmonton qui gagne la coupe.
Ah, pauvre Mario.
Le 9 août, Gretzky est échangé aux Kings.
On s'en rappelle de ça.
Pleurs de peine à Edmonton, de joie aussitôt qu'il était arrivé à Los
Angeles. J'imagine, c'est pas beau.
Le 18 août, Guy Lafleur annonce son retour avec les Rangers et rêve de marquer contre son ancienne équipe.
Ce qu'il va faire, non?
Le 17 décembre.
Oui, deux buts. J'ai écouté son DVD.
Tiens-toi.
Très bon. 28 novembre, les Nordiques sont vendus à un consortium formé de 5 partenaires québécois et d'un commandité. Mm-hmm. Passé oui. maître, évidemment, dans l'art de s'enrichir.
Marcel.
Sans investir. Bon. L'avalanche va suivre de dollars.
Oui, oui, oui.
Ouais, bon, au football, les Redskins de Washington gagnent le 22e Super Bowl. Winnipeg, la Coupe Grey. Il n'y a pas de football des Alouettes en 88. Hein?
Non, mais
ils ont flushé
bon
en 87.
C'est en 87 qu'ils ont...
Oui, mais je me souviens, moi, un 24 juin pour ça, pour remercier les francophones de leur
appui. C'est vrai, c'est bien fin.
Une tranche de vie, moi, je me souviens qu'à la tribune téléphonique, le nombre d'appels qu'on avait pris là-dessus à l'époque, zéro plus zéro.
Ah oui,
alors là, on a changé la formule. On disait plus, on passe à un autre appel, mais on passe à un autre sujet. Baseball, les Expos terminent avec une fiche de 500 et repêchent Marquise Grissom.
Oh, Marquise Grissom, on l'aimait beaucoup.
C'est les mondiales?
Oui,
les Dodgers.
OK, calme.
Cyclisme.
88, ça, c'est Greg LeMond.
Non.
À 88?
Non. Le Giro, c'est Andrew Hampston qui gagne le Giro.
C'est Bernard Hinault.
L'Espagnol Pedro Delgado gagne le Tour de France.
Ben oui,
et Real Manger gagne à être connu.
Très bon.
Je l'aime, moi.
Au golf, Randy Lyle remporte le tournoi des maîtres. Curtis Strange, l'omnium des États-Unis. C'est Viva Lesteros, l'omnium britannique. Et Jeff Sluman, le championnat de PGA. Tiger Woods n'a que 13 ans.
Mais
il joue déjà au golf au secondaire. Mm-hmm. Et sa petite amie de 12 ans l'accuse d'infidélité. Il le frappe avec sa règle en bois.
On se l'attend.
Woods a quitté l'école pendant un certain temps quand même. Tennis, c'est l'année Steffi Graf.
Oui, ben oui.
Alors Steffi, elle a gagné tous les tournois du Grand Chelem, plus le titre en simple.
C'est vrai?
Au jeu de Séoul, oui. Et chez les gars, Mats Wilander. Omnium d'Australie, de France et des États-Unis. Stefan Edberg, celui de Wimbledon. Ensuite, et je cite, ma parole, on roule à Montréal de cette flamme. Pierre Houde, le 12 juin vers 13h.
C'est vrai? Est-ce qu'il revenait déjà?
Le Grand Prix revenait.
Oui, mais c'était pas Pierre.
Après l'adaptation, je m'en fous.
Il était propriétaire, je pense, dans le temps du
rigueur. J'ai pas dit qu'il l'a dit à la TV, j'ai peut-être dit qu'il l'a dit chez eux.
Vérifiez vos sources.
Il était peut-être directeur du Grand Prix.
Exactement.
C'est bon, ça, c'est bon. Pour 14
jours, Enzo Ferrari est décédé.
Ah, pauvre.
Et en terminant, je dois dire que en 87, l'année d'avant.
Oui, mais là, on parle de 88, là.
Oui, mais attends, c'est parce qu'il s'en est pas remis avant 88, puis je me demande s'il en est remis encore maintenant. C'est que la blonde de Jean Dion le quittait.
Ça devient personnel, cette affaire, j'espère.
Ben, vous vérifierez avec lui.
OK. J'espère qu'il y a une pêcherie à vous faire aussi après.
Puis toi, où il y a eu un violent orage à Montréal, le toit du stade a déchiré.
Bon, mais ça finit sur une bonne note. Merci beaucoup, M. Trudel. Belle moustache en passant.
Au revoir.
Bienvenue à la capsule Prophétie mise aux Jeux olympiques, l'Autopiquette. Mardi, Canada n'aura pas fort à faire contre la Norvège et son équipe de Vikings inconnus. Per Age Strobert, Pal Grotnes et Lars-Erik Lund seront à surveyer. Mais pas tant que ça. Quant au Forsberg qui joue pour la Norvège, faut pas s'en faire, c'est Christian, pas Peter. 14-0, Canada. Jeudi, contre la Suisse, Canada sera étouffé par le jeu défensif étanche de Yannick Weber. Victoire de 4-3 à l'arraché pour Canada. Pour ce qui est des matchs de hockey féminin, ben, ça nous intéresse pas! L'Autopiquette, on peut parier sur n'importe quoi, même sur le bobsleigh!
Les Olympiques, nos amis!
Yeah! Elle nous casse les oreilles avec les Jeux depuis plusieurs semaines maintenant. Les Olympiques sont ses amis. Avec nous en studio, Gisèle Lamotte.
Bonsoir, monsieur.
Salut!
Et en plus d'aimer les Olympiques, eh bien, je suis une nostalgique. Je peux passer des heures à pleurer en regardant des vieilles cassettes de Brian Orser en patin de fantaisie.
On est pareil.
Permettez-moi d'en douter. moi, une des façons de canaliser ma nostalgie, eh bien, c'est par l'art. Et comme je suis nulle en dessin, bien, je me rabats sur la musique.
Good. Et c'est pourquoi vous nous livrez ce soir une chanson inédite portant le titre « Que reste-t-il de Calgary? »
Non.
Oui, et vous n'êtes pas en reste, car vous serez de joyeuses choristes.
Oh, on aime ça!
Ça va comme suit.
OK.
5 médailles pour le Canada. Des Jamaïcains en bob. J'avais 9 ans et je regardais les Jeux olympiques dans mon pays. Mais aujourd'hui, que reste-t-il des Jeux de Calgary? Des rires, des pleurs, un vieux bobsleigh rouillé dans une armoire, des verres avec un flambeau imprimé. acheté au gaz avec un 2 en papier. Au Calgary,
Calgary,
te souviens-tu,
te souviens-tu
de l'année où tu t'es élevé comme une grande cité, Calgary,
Calgary,
te souviens-tu,
te souviens-tu
qu'un jour arrivé devant notre TV, tu nous as tous émus. Après, on continue de patiner sur l'anneau olympique de Calgary. À 15 minutes du centre-ville, faute de trouver un party, tu peux te vanter d'avoir une piste de bobsleigh. Calgary,
Calgary,
te souviens-tu,
te souviens-tu,
le curling en démonstration, c'est une tradition, Calgary.
Oh, Calgary.
Te souviens-tu?
Te souviens-tu?
Des sauts d'une pièce, des toupettes grimpées, c'était les belles années. Hey, hey. Calgary. Jamais je ne t'oublierai.
Gisèle,
Gisèle, mais wow. Où est-ce que vous allez piger tout ça? Pas chez Danny Bédard, toujours?
Non, non, non. C'est un mélange d'inspiration, soit Willy Lamotte, mes grandes idoles de la chanson des années 80, Tiffany, Rick Astley et les Martines.
Chevrier, Saint-Clair.
C'est ça. Ah,
merci, au revoir, Gisèle.
Yeehaw.
Le brigadier des internets.
Les barons de Cleveland, c'était pas les Rockies du Colorado?
Ça se peut.
Oui.
Me semble, Régent, il dit n'importe quoi. M'a appelé mon chum, le brigadier, ouais. Hey, Paul!
Tu veux?
Hey, c'est-tu vrai que dans la vieille Ligue nationale, là, les Rockies du Colorado, ils ont déménagé à Cleveland pour devenir les Barons?
T'as peu, elle m'a de googler ça, man. Ben, pas tout mon gars, non. Les Barons, ils étaient tellement pourris que la Ligue les a fusionnés avec les North Stars du Minnesota, là. Puis eux autres, ils sont devenus les Sharks de San Jose en 91.
OK, puis les Rockies là-dedans?
Ben, eux autres, c'était les Scouts de Kansas City, là, avant, puis ils étaient tellement pourris que le club les a déménagés au New Jersey pour devenir les Devils.
Fait que Régent, il est encore dans le champ, Paul.
Hey, on peut rien te cacher, toi.
Merci, brigadier.
Ses connaissances sont imposantes, tout comme l'héritage des Jeux olympiques de Calgary. Hey. C'est Wikipédion 88 avec Jean Dion.
Bonsoir. Hey.
Jean,
bonsoir,
vous vous êtes fait flusher par votre copine en 88, que Pierre nous disait.
Ben non, il est tout croche, là. C'est en 87.
OK. Ouais,
sauf que les effets ont percolé sur 1988.
Ben, pauvre vous, pauvre vous. Hein?
Alors, évidemment, vous me connaissez, je me suis réfugié dans la boisson.
Oui, ben oui, c'est ça.
De sorte, que les Jeux de Calgary 88, je me souviens de rien.
Ben, prenez vos feuilles de Wikipédia et dites-nous qu'est-ce qu'il y en a quand même.
Alors, j'étais obligé d'aller voir, justement. dans
faire vos recherches, pour une fois.
Oui, dans, dans le détail.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 88, Jean?
Si je vous dis Devin Harris...
Oui.
Dudley Stokes,
oui.
Michael White et Samuel Clayton.
Est-ce que c'est comme des chiffres et des lettres? Il faut qu'on fasse une phrase avec ça.
Oui, c'est ça. Okay, good. Éplé.
Éplé quoi? Éplé. Enfin, c'est qui, là?
Je vous
c'est
parle qui? Des quatre membres de l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque.
Ah, ah ben oui, on le savait. On le savait.
La Jamaïque. Ben, vous avez sûrement vu le film Cool Running.
Oui, c'est un film très cool. Classique, l'appognez-vous.
En fait, c'est toute une histoire que la constitution de cette équipe de bobsleigh, parce qu'évidemment, la, ben, la piste, les pistes de bobsleigh en Jamaïque...
Sont, ils ne glissent pas beaucoup. Le sable, c'est assez limitant.
Il faut mettre des roues. Alors, ben, ils ont compétitionné, à Calgary, mais une course, ils ont pogné une fouille, comme on dit chez nous. Ils sont versés sur le côté. Mais ils ont quand même été les coqueluches des supporters, des spectateurs là-bas, parce que après leur chute, évidemment, on craignait qu'ils soient
blessés, même tués.
Ou morts, c'est ça, oui.
Je sais pas.
Mais non, ils sont sortis de leur traîneau.
Il était vraiment mal équipé.
Ils l'ont poussé à pied jusqu'à la ligne d'arrivée.
Ah, mais c'est une belle histoire.
Et d'ailleurs, l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque, parce qu'ils ont participé à des jeux subséquents. Ils étaient à Albertville en 92 et à Lillehammer en 94.
pense. Okay. Moi, j'étais encore dans un coma éthylique. Oh, que je me souviens pas.
Une grosse peine d'amour.
C'est comme une ouais, ouais, je me souviens pas de ces jeux-là. Ouais. Mais en 92, ça n'a pas très bien été. Mais en 94, ils ont terminé au 14e rang de la compétition de bobsleigh. Devant les États-Unis, la Russie, la France et l'Italie. Je m'en souviens pas, là, mais je peux vous le dire
d'avance. Ce qui me surprend là-dedans, c'est qu'il y a 13 autres pays en avant de
nous. C'est formidable.
C'est formidable.
Ben, déjà qu'il y a 18 pays en bobsleigh, c'est quand même,
c'est quand même impressionnant.
Et je ne me souviens pas non plus de Eddie des Eagle Edwards, qui était un sauteur à ski britannique. Qui était réputé pour faire la fête la veille dans un bar de Calgary. Ben, d'ailleurs, je fréquentais les bars de Calgary à l'époque, alors vous comprenez. Et il était le meilleur sauteur à ski de Grande-Bretagne, sauf qu'il finissait environ 30 mètres derrière, non pas le vainqueur, derrière l'avant-dernier.
Ah, ben, c'est un compétition.
Il faisait pas vraiment du saut à ski, il faisait de la chute de ski. Alors, il arrivait au bout du tremplin et
il se laissait tomber. Il y avait des grands skis pour avoir.
Ce sont les choses principales dont je ne me souviens pas.
Ah, c'est tout?
Oui.
Vous avez rien d'autre? Vous nous parlez pas de médaillés ou de... Canada a fait une belle figure? Ou
le Canada n'a pas remporté de médaille d'or, comme il l'avait fait aussi à Montréal.
Oui, un record, exploit.
Alors, à Vancouver, il va devoir faire de quoi, là?
Si vous voulez pas qu'on coupe votre salaire avec vos chroniques écourtées, là, vous allez nous couvrir officiellement les Jeux olympiques de 2010, vous, là?
Oui, en direct.
Ah oui? Vous allez être sur place? De votre salon, je pense.
J'ai pas dit ça. J'ai dit en direct.
De votre salon. C'est
en temps réel, je vais être quelque part.
En temps réel, en différé le vendredi soir. Bonjour, merci beaucoup, M. Dion.
Oui, dans Le Devoir, tous les jours.
Ça, c'est un journal, je pense.
Y compris le samedi. Bon. Sur ledevoir.com.
Merci.
Bon, c'est beau la plaque.
Multiplateforme.
Ouais. Salut.
Wikipédion. Disponible au www.spornographe.com.
Les grands moments de 88, partie 2. On oublie souvent comment c'était dans le temps que les vampires étaient pas en mode. C'est en 88 que Nathalie et René chantent « Tourne la page ». Si un avion déchire le soir, c'est un préposé qui déchire la toile du stade. Côté haute technologie, Microsoft lance Windows 2.1, le nombre d'abonnés Cantel pète le 100 000 et les imprimantes font « Tintinti, tintinti ». Au tennis, Steffi Graf gagne tout avec une main dans le dos, pendant que son futur André Agassi fait semblant de ne pas avoir une perruque. À part de ça, les Toyota vont super bien, McDo vend des boulettes à des Popov, puis un tata met le feu dans des pneus à Saint-Basile. Mais ce dont on se souviendra le plus de 88 est sans contredit Guy Lafleur, qui fait des annonces pour une compagnie de moumoutes que c'est pas vraiment des moumoutes, mais que c'est lettre en maudit pareil. Revenez-nous en 2088 pour d'autres grands moments de 88!
Bonjour Camille Dubé.
Bonjour René.
On va parler de curling.
On va résumer ce qui s'est passé,
ouais. C'est ça, oui.
on donnera pas de cours de curling comme on l'a fait en début des Jeux, là.
Non, absolument pas.
Il est clairement un passionné de curling. Il a été chef d'antenne à la radio pour les Jeux olympiques de Calgary en 88. Et il est aujourd'hui un vrai de vrai expert dans l'analyse de la Sainte Flanelle. Mm-hmm. C'est un honneur de recevoir dans les studios du Spornographe et cette fois en tant qu'invité à la ligne du Vieux-Poil, René Potier. Bonsoir, René.
Bonsoir.
Merci d'avoir bien voulu remplacer à pied levé notre ami Serge Boisvert qui a dû décliner l'invitation à la dernière minute pour des raisons familiales. Mais on passe d'un Olympien à un autre parce que vous étiez là en 88. Et j'ai envie de vous poser une première question. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes vraiment un passionné de curling, puisque j'ai lancé ça comme ça. Là.
Je ne suis pas du tout un passionné de curling, mais je vais vous raconter que pour la première fois de ma vie, j'ai vu en direct des compétitions de curling aux Jeux de Turin, car j'ai été affecté aux entrevues d'après compétition, et j'ai eu le bonheur d'interviewer des médaillés d'or. Hein. Le Canada a remporté l'or autant chez les hommes que chez les femmes, et j'ai assisté donc
Un vrai match
à une marque olympique où Brian Gouchou a réussi 6 points dans un même bout, si je me souviens bien.
Moi, je connais ça, puis c'est impressionnant.
Ouais. Et je vais vous dire une chose, là, c'est extraordinaire l'habileté de ces athlètes-là.
Oui, franchement, plus que Max Pacioretty, par exemple.
Pas mal.
Parce que dans le fond, en 88, vous étiez chef d'antenne, mais vous n'aviez pas les droits, on n'avait pas les droits d'écrire les matchs donc, de curling. On a eu Louis Lemieux un peu. On l'a eu beaucoup en début d'émission, qui nous parlait justement de son expérience, parce que la salle des nouvelles envoyait ses journalistes, donc pas des journalistes sportifs, là, à la télé, couvrir les Jeux olympiques à Calgary. On parlait plus de chapeaux de cow-boy que d'épinglettes.
spectacle.
Il couvrait ça sur le trottoir.
Oui, sur le trottoir. Vous deviez parler de sport à la radio?
Oui.
Je vais
vous raconter comment ça fonctionnait parce que ça fait partie des belles arnaques radio-canadiennes.
Ah, voilà! Il y a des moyens de passer à travers les restrictions.
Oh, c'était remarquable.
C'est vrai.
Et je m'explique.
Oui.
Comme Radio-Canada n'était pas détenteur des droits, mm-hmm. mais comme le réseau TVA à ce moment-là ne diffusait pas dans toutes les provinces canadiennes, mm-hmm. oh. le gouvernement fédéral mm-hmm. a exigé de Radio-Canada que l'on présente à la télé de Radio-Canada tous les jours mm-hmm. un résumé d'une heure.
OK.
La radio mm-hmm. était détentrice des droits.
Ah!
Ça va?
Nuance, là.
Donc, okay. voici ce qu'on faisait. On était des vrais vlimeux. Je demandais à Richard Garneau
ouais.
de décrire la compétition de ski
okay.
pour la radio.
Ben oui.
Pendant qu'il décrivait à la radio, ce qui était tout à fait permis, mm-hmm. évidemment qu'on enregistrait à la télé.
et, voilà.
Et sérieusement, et ça a créé un conflit que je pourrais raconter pendant mm-hmm. trop de temps,
ouais.
mais Radio-Canada produisait, et sans chauvinisme aucun, beaucoup plus rapidement et de bien meilleure qualité, le résumé de fin de journée. Ça a eu des cotes d'écoute très intéressantes à la télé.
Ah ben,
on n'était pas soumis aux restrictions que nos collègues vont connaître.
Ouais, ouais, ouais.
Mais voici pourquoi j'étais chef d'antenne, comme vous l'avez si bien dit, à la radio.
Mm-hmm.
Mais tout ce qui passait à la radio, dans un sens, c'était le matériel de base de la télé.
c'est une belle arnaque, ça, quand même.
Oui,
c'est une
belle arnaque. Ah, ah.
Justement, si on vous demandait de décrire vos jeux à vous, vos jeux de Calgary, en 30 secondes, vous diriez quoi?
14 heures de temps dans un studio qui était insonorisé par des contenants d'œufs qui avaient été peints bruns. Imaginez le pire des bruns. Là.
La technique a un d'accord. peu évolué. Hein?
La technique a quand même un tout petit peu évolué pour insonoriser les studios. Et c'était 14 heures tous les jours.
Ah ben,
ça tient son homme franchement
vous
occupé.
Vous n'avez pas profité tant que ça des jeux, finalement. Je disais, à moins que vous aimez les coquilles d'œufs ou les
œufs
Non, j'en ai pas profité tant que ça. Je suis allé voir, j'ai assisté à un ou deux matchs de hockey en compagnie de Raymond Lebrun, qui décrivait le hockey à ce moment-là, mm-hmm. Parce que Ligue nationale de hockey ne participant pas aux jeux,
les joueurs professionnels avaient le droit, c'était la première année
qu'ils
avaient le droit. Notre ami Serge Boisvert, qui devait participer, a été le meilleur compteur. Ouais. Bon, ils ont fini en quatrième place, pas fort, pour cette année. Prédiction pour cette année?
Deuxième,
je
sais que je suis plate.
Mais c'est sûr que les Russes vont être...
J'ai l'impression que les Russes vont être à peu près imbattables.
J'ai l'impression aussi. C'est le moment de passer aux questions des internautes.
Oui. Marc Durand, je précise, là, c'est le vrai, votre collègue, qui vous demande, en 1988, le ballet acrobatique était un sport en démonstration aux Olympiques. Voulez-vous bien nous dire pourquoi?
Pourquoi le ballet
acrobatique est un sport en démonstration là-bas?
Ben, si quelqu'un l'a vu, on pose pas la question pourquoi c'est resté en démonstration. Parce que ça portait son nom.
Ouais.
C'était une forme de danse sur ski en descente. Oui.
Un petit vague.
Mais c'était pas intéressant.
OK.
C'est bête, mais c'est ça.
Ça fait le tour de la question. Et dernière question, Guillaume maintenant veut savoir qu'est-ce qui est le plus fun pour un journaliste sportif? D'écrire le plongeon avec Annie Pelletier ou le curling avec Camille Dubé au jeu de Calgary, alors que le curling était aussi un sport en démonstration.
Il est tellement gentil, Camille, que je vais prendre Annie Pelletier.
Oui? Vous êtes très habile. René Poitier, c'est maintenant le temps de la question 6 pouces d'un côte. Monsieur Poitier, Jeux olympiques, droit de diffusion, VTL. Pour vous, là, c'est-tu le bout du bout, cette affaire-là?
Non. Le réseau privé a payé 150 millions de dollars américains. Radio-Canada en offrait 90 millions de dollars canadiens.
Ah oui, ouais.
Alors, comment dire, c'est la réalité économique du monde du sport d'aujourd'hui. Je pense qu'on aurait dû avant s'entendre avec d'autres diffuseurs pour que la facture soit un peu moins salée.
Mm-hmm.
Mais cela dit, depuis 1998, Radio-Canada a présenté en compagnie du réseau des sports.
Ouais, hein, tout à fait, oui.
Avec,
ouais.
avec le réseau des sports comme partenaire, mm-hmm. ça c'est un peu mieux dit, ouais. ouais. les Jeux olympiques.
Ouais, dans la question, c'était plus question justement de VTL, mais RDS.
Mais à VTL, on regardera ça à VTL. On regardera ça à VTL.
Ouais,
ben, monsieur... En haute définition.
Ah, en plus. Monsieur Potier, merci beaucoup.
Ben, je vous en prie.
Merci. Bon, Jeux olympiques.
Au revoir.
Ah, merci, au revoir.
Je pense que c'est pas un mauvais temps, un mauvais joueur.
Il faut que Bob Guéné se garde un certain montant d'ici au 3 de mars s'il voit qu'il a besoin d'un joueur pour faire une transaction qui peut lui amener faire la différence entre une place en éliminatoire.
Effectivement.
Marv Levy, vous le connaissez, là? Mm-hmm. Lors d'une défaite, il a ramassé mon cul, OK, sur la vidéo 10 fois.
Même si on travaille fort et les choses ne tournent pas de notre bord, faut continuer à travailler jusqu'à la dernière goutte.
Au début de l'année, il faut se rappeler qu'il y a eu 11 joueurs qui ont changé. Le virage à 360 degrés, Bob Guéné l'a fait.
Ça n'a pas de bon sens que tu t'es lancé, frappé, ta brouette, ta jambe et tu casses le fibia.
Notre spécial Olympique 88 est terminé. Vous savez ce que ça veut dire, ça?
Non, on est tanné de parler de Calgary.
Non, ça veut dire que c'est l'heure de notre spécial Paralympique 88.
Oh, non.
Et oui, comme tout bon jeu paralympique, on va couvrir ça à botch juste pour se donner bonne conscience. Messieurs, saviez-vous que les Jeux paralympiques de 88 n'ont pas eu lieu à Calgary, mais bien à Innsbruck, en Autriche?
Non, logique.
Et contrairement aux Paralympiques de 84, où toutes les sortes d'handicapés étaient acceptés, les Paralympiques de 88 n'offrent pas l'épreuve de slalom géant pour manchots.
Hey, ça achève-tu, là?
Ben oui. Par contre, les Paralympiques Olympique de 88 offre une toute nouvelle discipline, le ski de fond pour aveugles.
C'est plate.
D'ailleurs, le fondeur mexicain était tellement lent qu'on l'a perdu dans le bois. Mais le pire dans cette vraie histoire-là, c'est que le fondeur mexicain, il était pas aveugle. Il était juste poche.